Bonsoir. Bienvenue pour cette neuvième et dernière séance consacrée à l'œuvre de Frank Gehry. Pas strictement la dernière, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, Frank Gehry sera ici le 22 juin à 19h pour une conversation avec moi. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Le collège, je ne comprends pas très bien quelle est la politique d'invitation du collège, puisque les invitations partent par la poste, mais je pense qu'il y aura de la place si vous arrivez à temps, ou en tout cas de la place dans les salles à côté s'il y a une retransmission vidéo. Donc, c'est une séance publique-privée dont la géométrie m'échappe, mais qui aura lieu effectivement le 22 à 19h. Le neuvième épisode, c'est donc le travail récent de Gehry, un travail qui s'étend sur beaucoup de continents et qui est jalonné par quelques œuvres majeures. La Fondation Vuitton est l'une d'entre elles, mais il y en a d'autres. Gehry continue à travailler sur le thème de la musique, engagé très fortement, comme vous vous en souvenez, déjà dans les années 60, avec ses premiers auditoria en plein air. Il travaille sur le thème du musée, ou en tout cas des salles d'exposition. Il s'intéresse aussi à quelques projets dont la perspective est plutôt grand public, comme cette cave vinicole dans le vignoble du Rioja, en Espagne, qui est un projet original parce qu'il semble être parachuté au milieu des vignes, à proximité, vous le voyez ici, avec ce jeu de tôle arrondie. Il se situe donc à proximité, à côté de ce village dont vous voyez la silhouette ici. Vous voyez aussi combien cette photographie opportunément prise au moment où les feuilles des vignes tournent au rouge en automne justifie le parti coloré du bâtiment. Donc c'est sans doute, au-delà de quelques particularités du plan, l'originalité de ce projet, que d'essayer d'explorer à fond le potentiel de l'enveloppe métallique que Gehry a commencé à utiliser, vous vous en souvenez sans doute, de façon assez significative avec le musée Weizmann de Minneapolis, donc autour de 1990, avant même Bilbao. Donc ici, c'est un programme qui comprend à la fois un hôtel et des salles de congrès, des salles de réception, les caves elles-mêmes étant dans un bâtiment beaucoup plus placide. Vous voyez la maquette et un code de couleur qui n'est pas encore tout à fait établi, et les contorsions auxquelles les fenêtres sont sommées de se soumettre pour entrer à l'intérieur de la géométrie de l'enveloppe. C'est donc une démonstration du potentiel, mais aussi sans doute des limites de cet exercice. Cette espèce de dégringolade de tôle courbe enveloppant le noyau, comme toujours chez Gehry, rationnel et presque minéral du bâtiment. Le code de couleur a sa raison d'être. Il est dérivé de, à la fois, quelques détails chromatiques près quand même, de la couleur du vin et aussi de la couleur de ces feuilles métalliques qui servent à envelopper le bouchon des bouteilles. Donc il y a un clin d'œil à l'industrie vinicole dans ce projet. Un autre projet à peu près contemporain, mais dont la production se développe sur une très longue durée, c'est un projet important, je dirais, affectivement pour Frank Gehry et son épouse Bertha, qui est panaméenne. C'est donc la construction d'un musée de la vie ou d'un musée de l'environnement, je dirais plutôt, à Panama City, à l'entrée du canal de Panama sur l'océan Pacifique. Vous voyez que c'est un projet assez compact, situé sur cette langue de terre et traité presque comme un objet ludique, un jeu d'enfant. La démarche suivie pour le constituer est toujours la même, c'est-à-dire la mise au point d'abord l'établissement des relations entre les différentes composantes du musée, en l'occurrence les galeries, les parties les plus publiques, l'administration, et puis des tentatives variables d'enveloppement de ces volumes par des feuilles de métal. Ici, plutôt des feuilles planes que des feuilles, je dirais, excité et incurvé comme à El Ciego. Et vous voyez donc le résultat ici. Ces toitures colorées sont visibles depuis les parties extérieures du parcours. À l'intérieur, le musée, en revanche, est une espèce d'environnement fermé dans lequel les différentes étapes de l'évolution biologique du Panama sont présentées. Un troisième projet important, aussi celui-là effectivement pour Gehry, c'est l'extension de la galerie d'art de l'Ontario à Toronto. Ce projet, vous le voyez sur, vous voyez sa situation sur le plan ici, dans le centre de Toronto. Il a été assez émouvant pour Gehry puisque sa maison natale était située ici, si je ne m'abuse, donc juste à côté. Et donc c'est le premier musée qu'il a eu l'occasion de fréquenter quand il était enfant. C'est un musée qui a des collections assez intéressantes, qui était très fragmenté entre un vieil hôtel particulier et des galeries construites au fil des années. Gehry reprend complètement le projet de plusieurs manières, en créant d'une part un grand volume public le long de Dundas Street ici, un grand hall qui distribue le musée et les équipements commerciaux désormais indispensables, qui dans les musées contemporains occupent autant de place que les galeries. Mais il crée aussi une grande boîte ici qui est consacrée aux galeries contemporaines et à l'intérieur desquelles, sans doute a-t-il à l'esprit le centre Pompidou, galeries à l'intérieur desquelles une très grande liberté d'aménagement scénographique est possible. Un escalier hélicoïdal que vous voyez ici qui trouve son origine à l'intérieur d'un des patios du bâtiment émerge et joue le rôle de connecteur, de pivot entre le musée existant, cette extension verticale et cette extension verticale. La façade sur Dundas, c'est le morceau de bravoure du bâtiment dans sa perception urbaine. Vous voyez comment le bâtiment, cette photographie panoramique est un peu exagérée évidemment, mais ce bâtiment offre un très long linéaire vitré sur la rue qui permet de découvrir une partie des activités situées à l'intérieur. La structure est une structure mixte de métal et de bois et nous met sur la voie du type de structure qui sera utilisée à la Fondation Vuitton à Paris quelques années plus tard. Quant à l'intérieur du musée, voici le patio principal qui est couvert et dans lequel se déploie cet escalier hélicoïdal qui, comme je l'ai déjà dit, permet en théorie l'accès aux galeries supérieures. En théorie seulement, car les ascenseurs assurent l'essentiel de la circulation, selon ce que j'ai pu en percevoir il y a quelques mois. Voilà l'intérieur de cet escalier, qui est donc là une pièce de sculpture praticable au milieu de la nouvelle institution, les galeries elles-mêmes ayant une très bonne lumière artificielle. Donc Gehry est devenu ainsi, avec ce projet, une sorte de réparateur extenseur de musée, et il s'est vu confier plusieurs commandes. Il avait déjà réalisé des opérations de ce genre dont je n'ai pas pu vous parler. En effet, l'œuvre de Gehry, le nombre de ses projets, comme je l'avais dit initialement, avoisine les 350. Il est donc impossible de tous les évoquer ici. J'ai à l'esprit son extension du musée Norton Simon de Pasadena, réalisée il y a une vingtaine d'années, et qu'il est très simple d'évoquer, puisqu'il s'agit purement et simplement d'une copie des galeries existantes. Simplement d'une reproduction à l'identique des galeries existantes. Alors, dans le grand projet qu'il conduit depuis des années à Philadelphie, il s'agit d'autre chose. Le musée des Beaux-Arts de Philadelphie, construit par un architecte Beaux-Arts du nom de Horace Trumbauer, sur une colline qui en fait une sorte de Parthénon au bout du Fairmount Parkway de Philadelphie, est un bâtiment très impressionnant qui avait déjà été un peu trituré par Robert Venturi, mais qu'il était hors de question de toucher vraiment à l'extérieur. Du coup, cette maladie qu'ont les musées américains et tous les musées du monde de grandir sans cesse dans une espèce de folie de collection, de programmes et de développement de leur capital s'est focalisée sur les espaces souterrains du musée et sous son terrain. On sait que c'est une politique qui a été lancée avec la Galerie nationale de Washington et qui est celle qui a été poursuivie avec le Louvre de Pei, le travail sous la cour, sous les espaces extérieurs. Ici, ce travail se développe de façon très intéressante sous un terrain en pente, sous ces grands emmarchements qui ont été rendus inoubliables au cinéma par la marche, plutôt la course de Sylvester Stallone dans un Rambo mémorable. Je ne sais pas si cette référence est citable dans ces murs. En tout cas, pour tout Américain, elle est évidente. Donc, ça s'appelle les Rambo Stairs maintenant. Sous les Rambo Stairs, Gary a disposé des espaces souterrains il y avait déjà des aménagements souterrains antérieurs, des espaces souterrains qui permettent de créer des galeries, des lieux d'accueil du public, des circulations, et que vous devinez ici. Donc, c'est un travail. On pourrait dire que ça ne ressemble pas à du Gary quand on regarde qu'il s'est tenu particulièrement à carreaux dans ce bâtiment et qu'en fait, c'est certainement dans le dessin des fontaines ici et dans l'aménagement des patios que se trouve l'invention formelle la plus radicale dans ce projet. Pour le reste, il s'agit d'un projet assez ambitieux et assez complexe d'aménagement des circulations. Alors, la Fondation Vuitton à Paris, c'est un projet d'une autre importance, d'une autre signification. Gary, vous vous en souvenez, avait construit le centre américain une quinzaine d'années plus tôt et était resté relativement sceptique sur son propre projet, avec l'impression que, sous le double effet de la compression du programme et de l'ajustement aux textures du paysage parisien, il n'avait pas fait son bâtiment le plus brillant. Donc, lorsque Bernard Arnault l'a abordé, après avoir visité Bilbao, après lui avoir demandé un premier projet pour un magasin à Tokyo, dans une problématique, celle de Bernard Arnault, qui était celle d'une compétition avec son frère ennemi François Pinault. C'était l'époque où Pinault faisait travailler Tadao Ando sur une fondation sise dans l'île Seguin de Billancourt. Donc, dans ce contexte très compétitif, Arnault a chargé Gary de développer son projet, un projet qu'il a été difficile de faire entrer dans la réglementation parisienne, notamment parce que le plan d'urbanisme spécifiait que seuls deux étages étaient permis sur ce terrain. Il a donc fallu faire comme si ce bâtiment, qui en a beaucoup plus, avait deux étages. C'était une des difficultés du programme. La démarche de Gary se situe aussi ailleurs, et je voudrais insister sur cet autre aspect. Après Bilbao, Gary n'a cessé de se voir commander d'autres Bilbao. C'est le destin des artistes, celui aussi des intellectuels, de se voir demander continuellement de se plagier. Et c'est une démarche que certains architectes acceptent fort volontiers, et que d'autres, avec des variantes, et que d'autres, c'est-à-dire en... Ils acceptent de reconduire, selon les cas, la syntaxe ou le lexique de leur bâtiment, parfois les deux. Je ne citerai aucun nom. Dans le cas de Gary, c'est une démarche qu'il refuse. Et donc, plutôt que de faire un nouveau bâtiment couvert en métal, comme on le pressait de le faire, il a travaillé sur autre chose, notamment en rupture avec toute cette série de bâtiments couverts de métal dont vous venez de voir quelques exemples. Alors, les croquis sont innombrables et ici pas forcément rangés dans l'ordre, mais ils montrent comment un bâtiment qui est à l'origine orthogonal, qui semble avoir une structure presque axiale ou en tout cas presque pyramidale, progressivement semble se mettre en mouvement comme mu par le souffle d'un vent fort. Et c'est l'image du voilier qui viendra à l'esprit de tous les commentateurs à l'inauguration de ce bâtiment, accouplé à quelques autres, puisqu'une des lignes d'argumentation de Gary et de ses clients a été d'insister sur le caractère parisien du bâtiment pour réagir à une opinion publique, à l'opinion des riverains hostiles à ce projet. donc de souligner ses parentés avec les grandes verrières parisiennes, celle du Grand Palais ou celle du Palmarium, qui était située dans les parages. L'idée aussi d'un bâtiment qui résulterait d'une sorte de naufrage, ou en tout cas de collision entre fragments de banquise, entre éclats de banquise, un bâtiment qui serait, c'est une image que l'on voit presque dans ces, ici, peut-être ici aussi, et un bâtiment qui, dont les superstructures seraient des voiles de verre tendues, gonflées par ce vent qui opère sur les voiles des bateaux qu'affectionne Gary. Image que j'avais déjà évoquée à propos du Walt Disney Concert Hall, mais les voiles du Walt Disney Concert Hall de Los Angeles étaient des voiles de métal. Alors, le processus de conception était particulièrement long et particulièrement complexe. Je crois que le nombre de maquettes avoisine la centaine, le nombre de maquettes d'études qui ont été faites pour ce bâtiment. Et selon la méthode habituelle de Gary et de son équipe, qui consiste à essayer de résoudre les problèmes de définition des galeries, des circulations verticales ou horizontales, et progressivement d'arriver à développer un parti spatial qui fonctionne. Vous voyez ici d'emblée quelques idées sur cette maquette, l'idée des passerelles qui relient entre les blocs des galeries. Vous voyez aussi assez tôt l'idée de terrasse plantée. Évidemment, c'est la terrasse du Walt Disney Concert Hall qui vient à l'esprit. Et puis, ces maquettes en blocs que vous voyez ici au fond de cette perspective, de cette exposition, ces maquettes en blocs ont été enveloppées par des formes multiples de rhodoïdes colorés. Vous voyez ici un petit exemple de l'énorme déploiement de rhodoïdes colorés qui a permis progressivement de trouver une solution pour l'enveloppe, qui est en fait une enveloppe double, je vais y revenir, et c'est ce qui fait l'originalité de ce bâtiment et, à mon avis, son principal apport architectural. Ici, les maquettes semblent se préciser. Une hypothèse blanche, évidemment, nous sommes ici dans un monde de papier et de carton, mais ce que représente ce matériau, c'est un verre translucide. Ici, des hypothèses où le verre et le métal façon El Ciego se combinent. Donc un intense travail de réflexion, d'extension, de compression du bâtiment pour essayer d'en trouver la dimension juste. Ce bâtiment était censé accueillir une collection que personne ne connaissait, une collection qui était restée mystérieuse, donc avec laquelle Gary a dû travailler en compagnie des conservateurs, notamment Suzanne Paget, des conservateurs de la fondation Vuitton. Dans le même temps, l'hypothèse à laquelle Gary était très attaché était celle de faire de ce lieu un lieu d'accueil à des œuvres site-spécifiques, à des œuvres conçues pour les galeries et les espaces de circulation, et c'est un point sur lequel il a été en définitive jusqu'à ce jour relativement peu suivi. Il a été, dans une certaine mesure, avec l'œuvre d'Eliasson dans les parties basses et celle de Buren dont je vais parler l'année dernière. Voilà le bâtiment complet, et vous voyez ici sur cette maquette qui nous montre ce bâtiment sortir de ses douves avec se plier sous le vent d'ouest, ce qui est logique à Paris. Vous voyez que la caractéristique de ce bâtiment par rapport à tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent, c'est le dédoublement de l'enveloppe. C'est-à-dire, c'est la création d'un espace, ou plutôt d'une séquence spatiale qui se développe entre l'extrado, terme d'architecture classique, l'extrado des galeries, la paroi extérieure des galeries, en béton, en petits panneaux de béton, et les voiles elles-mêmes qui sont portées par une structure métallique qui porte une structure en bois qui porte finalement le verre. Donc ce qui est important et intéressant, l'apport de ce bâtiment, c'est la création de cet espace qui était censé être ponctué par des œuvres d'art, ce qui sera sans doute le cas un jour. Donc voilà ici une maquette numérique qui a l'intérêt de montrer le rapport entre les parties opaques et les parties et les ossatures tendues dans l'espace. Ici, les ossatures primaires, et ici, nous voyons comment les ossatures secondaires en bois ont été posées. Le plan du rez-de-chaussée et la coupe longitudinale, ce qui montre les espaces communs du rez-de-chaussée, le sous-sol, les galeries de hauteur variable et les prises de lumière dans la toiture. Donc un bâtiment très compact, en fait beaucoup plus complexe dans sa distribution que les musées que nous avons vus jusqu'à présent. Le musée de Minneapolis se développait pratiquement sur un seul niveau. Le Guggenheim de Bilbao pivotait, tournait autour d'un grand atrium avec une aile longitudinale au sol. Ici, nous sommes dans un musée feuilleté qui est beaucoup plus complexe. Nous en voyons aussi la preuve au rez-de-chaussée. Voici l'entrée, le vide au-dessus de l'auditorium, une galerie et les circulations verticales. Et s'il faut s'arrêter vraiment sur les qualités et les limites de ce bâtiment, c'est bien dans le caractère un peu labyrinthique des circulations du rez-de-chaussée. C'est bien ce caractère un peu labyrinthique qui porte à s'interroger et qui est sans doute, je n'ai pas connaissance de la chronique assez complexe des relations entre l'architecte et le maître d'ouvrage, qui est sans doute liée à une certaine compression qui a suivi le projet à un moment donné et dont les espaces publics, pas extrêmement lisibles, ont fait les frais. Donc, qualité de ce bâtiment. On le voit tant de l'extérieur que quand on est sous les verrières, c'est la qualité de la lumière qu'il sait capturer dans le ciel parisien, un peu par tous les temps et à toutes les heures du jour et de la nuit. Le voici vu dans son grand déploiement. Et ici, nous voyons comment chaque fragment de l'extérieur génère correspond à des combinaisons différentes de ces voiles. Au total, les 12 grandes verrières assemblent 3600 panneaux de verre dont la courbure est à chaque fois unique. Ces quantités correspondent assez à celles des panneaux qui avaient été faits soit pour Bilbao, soit pour le Walt Disney Concert Hall, mais avec un matériau plus facile à travailler que le verre. L'acier s'emboutit, le verre doit se couler. Les panneaux de verre doivent être coulés à la forme. Et donc c'est la prouesse technique, les prouesses techniques multiples réalisées pour ce bâtiment expliquent son coût mystérieux, mais certainement faramineux. Je ne voudrais pas évoquer de chiffres imprudemment. Donc vous voyez ici comment ces verrières sont portées par des systèmes eux-mêmes assez complexes et qui ont dû être calculés et dessinés pour chacun d'entre eux par une pléthore d'ingénieurs extrêmement, extrêmement talentueux. Le pari qu'avait fait Gehry, l'idée qu'il avait portée de faire de ce bâtiment un lieu accueillant aux artistes a été validée, à mon sens, par l'intervention de Buren en 2016, qui a su jouer avec le bâtiment, c'est-à-dire non pas se dresser contre lui, mais jouer avec sa géométrie pour en révéler certains aspects, notamment, vous le voyez ici, avec cette vue des verrières, un jour typique parisien gris, et vous voyez, bon, un jour où le soleil est sans doute plus vif ici, mais vous voyez surtout que le travail de Buren a été un travail à la fois sur les verrières et sur l'ombre, que ces verrières projettent sur l'extrado des galeries. Un travail qui révélait vraiment l'épaisseur sédimentaire du bâtiment. À l'intérieur, des galeries, comme à Bilbao, des galeries orthogonales, des galeries, je dirais, relativement conventionnelles, et des galeries plus complexes dans leur géométrie, prenant la lumière du jour, comme vous voyez ici. Un auditorium où Gehry a travaillé avec Ellsworth Kelly à des œuvres spécifiques. Et tout ceci fait donc un bâtiment qui pose des problèmes de déambulation. On l'a vu avec l'exposition Shchukin qui était déployée sur plusieurs niveaux de façon assez complexe, mais un bâtiment qui apporte à l'architecture parisienne cette promenade architecturale suspendue entre verre et les des coques des galeries qui, à mon sens, est une trouvaille assez extraordinaire. Vuitton s'est efforcé d'utiliser le succès public du bâtiment pour sa promotion de manière assez divertissante, je le cite au passage, en demandant à Gehry de concevoir un sac, que je ne montrerai pas, ce n'est pas son œuvre la plus impérissable, et surtout, vous le voyez, en utilisant le langage du bâtiment comme une sorte de langage promotionnel dans ses publicités et dans ses vitrines. Gehry avait travaillé sur un autre projet pour LVMH à l'époque, qui était un pavillon, vous voyez ici, un pavillon qui aurait sans doute flotté sur cette base, projet assez mystérieux sur lequel je ne l'ai pas interrogé, mais il est clair que le rapport avec ce maître d'ouvrage très, très généreux s'est développé bien au-delà de la création de ce bâtiment que certains ont dénommé, c'est Joseph Giovannini, un journaliste qui observe l'œuvre de Gehry depuis très longtemps, un bateau à voile cubiste, pendant que d'autres parlaient d'une combinaison de poissons et de bateaux à voile. Je ne vois pas tout à fait le poisson, en l'occurrence. Alors, pour Vuitton, l'actualité, c'est l'étude d'un autre bâtiment pour la Fondation, qui est la transformation du bâtiment voisin de Jean Dubuisson, construit pour le Musée des Arts et Traditions Populaires dans les années 60, un bâtiment qui était à l'abandon, ni la ville ni l'État n'avaient l'intention d'en faire quoi que ce soit, en dépit de beaucoup d'intentions affirmées plutôt par le monde associatif. Vuitton a négocié un bail de 55 ans sur ce terrain pour transformer ce bâtiment en centre des métiers d'art, pour y accueillir un restaurant, celui du bâtiment d'à côté étant assez étriqué, et pour y créer toute une série d'équipements. Nous voyons ici l'équipe sortante de la politique française nationale et la maire de Paris accueillir Gehry et son projet avec Bernard Arnault et jouer avec la maquette. Ce bâtiment est intéressant. Pourquoi ? Parce que, là encore, Gehry ne fait pas du Gehry, comme à Philadelphie. Il respecte la géométrie, pas la lettre de la façade de Dubuisson. Donc ce bâtiment paramicien de Dubuisson, il construit une façade plus constructiviste et évidemment aux normes thermiques courantes. Et il travaille à l'intérieur du volume et notamment à l'intérieur de ce volume, il examine en ce moment l'hypothèse de créer une salle de concert que vous voyez ici, une salle de concert modulable qui serait à l'intérieur du socle du bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui... ici, on a presque l'impression que c'est Dubuisson revu par Renzo Piano beaucoup plus que par Frank Gehry. Le projet est en cours de développement et deviendra un équipement culturel assez complexe et assez accueillant. Alors, par une sorte de calembour visuel, je passerai de cette salle dans son état d'étude, toute provisoire. C'est vraiment une photo, un scoop réalisé sous le manteau dans l'agence de Venise. Je passerai à une autre salle qui, elle, a été inaugurée cette année et qui est la salle Pierre Boulez de Berlin, qui est intéressante dans la séquence des bâtiments musicaux de Gehry. Je vous rappelle que ça commence par des scènes en plein air, dont le Hollywood Bowl, que ça passe par le Walt Disney Concert Hall, d'autres salles dont je n'ai pas parlé, comme la salle réalisée pour Michael Tilson Thomas, son ami d'enfance à Miami Beach. Ici, nous sommes à Berlin, à l'intérieur d'un bâtiment existant qui servait de magasin de décor pour l'opéra du temps de l'Allemagne de l'Est. Et pour Daniel Barenboim et son orchestre du Diwan, et l'école qu'il a créée avec le Diwan, cet orchestre israélo-palestinien mis sur pied avec l'écrivain et théoricien Edward Said, Gehry a proposé de créer une salle, vous voyez ici une salle ovale dans ce petit croquis. Il fait un jeu de mots en français, la salle ovalable, qu'il donne à Barenboim. Voilà l'extérieur du bâtiment et la forme de cet ovale superposée à celle de la coupole référence un peu osée, sans doute pas due à Guéry lui-même, bien qu'il se plaise à diffuser cette image superposée à la coupole de l'église de San Carlino de Borromini à Rome. Une seule image permet de comprendre ce bâtiment, c'est donc ce projet, donc une salle ovale à l'intérieur d'un périmètre rectangulaire, des volets de sièges suspendus selon un ovale, vous voyez ici, qui est un ovale gauchi, suspendu en porte-à-faux depuis les murs, l'ensemble étant contenu à l'intérieur d'une boîte plaquée de bois dont la sonorité est tout à fait adaptée à la musique de chambre que Barenboim joue là-bas. Donc c'est un bâtiment dans lequel Guéry, vous le voyez, n'a pas cherché à faire du Guéry, n'a pas cherché à dépasser le programme et à faire de la sculpture. Il s'est mis, comme souvent dans ses projets de salle de musique, en liaison, en rapport étroit avec l'acousticien, qui est Toyota, le même qu'à la salle Walt Disney de Los Angeles. Il a travaillé avec lui afin de créer un lieu introverti et harmonieux, à la fois esthétiquement et musicalement. Il n'a pas eu autant de chance avec tous ses projets culturels des années récentes, et je voudrais évoquer ici un de ses grands motifs d'amertume, qui est l'échec de son projet pour le Musée national d'art de Chine, un concours qui s'est déroulé il y a environ 5 ans, un énorme bâtiment pour le moment suspendu, avec lequel les Chinois entendaient créer un musée multidisciplinaire capable de rivaliser avec les grands musées du monde. Voilà la maquette de Guéry, la maquette d'ensemble. Je vous fais grâce des croquis dans ce cas. Ce qui est particulièrement intéressant à l'intérieur de ce bâtiment, c'est le travail sur la création d'une série de grands patios tout à hauteur. Vous les devinez ici, hein, ces patios qui permettent à la lumière des toitures, des grands systèmes d'éclairage d'atteindre le rez-de-chaussée, et les circulations diagonales entre ces patios. La caractéristique la plus importante de ce bâtiment, de ce projet, je dirais, était sa façade en verre, dont un prototype grandeur a été réalisé. Donc l'ensemble du bâtiment était censé être en verre, et donc pouvait de ce fait recevoir des projections, pouvait devenir une façade colorée animée à la nuit. Ce bâtiment ne sera pas, pour le moment, suspendu, et Guéry, de toute façon, a été écarté du concours, de la phase finale du concours. Ce travail sur le revêtement, dans, je dirais, le cycle des œuvres d'après Bilbao, est un travail qui explore des directions multiples et des matériaux multiples. Un exemple ici, c'est un bâtiment scientifique pour construit en Australie. Vous en voyez la maquette, et il a été en fait réalisé. Un bâtiment qui a été conçu avec une méthode comparable à celle utilisée pour le bâtiment de MIT, pour le Stata Center dont j'ai parlé. Vous voyez ici cette maquette qui permet d'examiner l'habitabilité du bâtiment par les différentes équipes de chercheurs. Et vous voyez que sa peau est constituée par un système extrêmement compliqué de briques, toutes placées de manière extrêmement préméditée et dessinées par ordinateur, mais ensuite placées à la main, dans lesquelles les panneaux de façade, les fenêtres sont insérées. Donc c'est un bâtiment qui a été réalisé et complètement monté à la main pour ce qui est des parois. Ce bâtiment annonce le travail que Guéry est en train de conclure en Arles avec le siège de la fondation Luma, créé par Maya Hoffman, est censé accueillir à la fois des collections, des expositions, des ateliers, des services pédagogiques, etc. Ce bâtiment se situe sur l'emprise des ateliers de la SNCF. Voici Arles, les arènes, la place du Forum par là. Voilà les Aliscans, l'allée des Aliscans se trouve en contrebas, donc c'est un endroit assez sensible d'Arles. Les ateliers de la SNCF ont été en partie transformée, modernisée par la Fondation Luma qui en a confié le projet à Annabel Seldorf, architecte de New York, et Gary s'est concentré sur le bâtiment principal en travaillant à son implantation. Donc voilà une autre vue qui nous montre depuis la ville, cette fois-ci c'est l'entrée du terrain est ici, les Aliscans derrière, vous voyez comment ce bâtiment joue et constitue un repère vertical très fort dans cette ville d'Arles qui, où émergent quelques clochers, hein, celui de Saint-Trophime, quelques autres, mais enfin plutôt en contrebas par rapport à ce terrain, donc ça deviendra le point dominant d'Arles, et un travail dont vous êtes désormais familier, qui vous montre, vous voyez ici comment progressivement, de l'assemblage des volumes d'abord considérés comme des parallélépipèdes très simples, puis ces volumes travaillés à partir d'idées semblables à celles du bâtiment de Sydney, comme étant des assemblages de briques, peut-être dans un premier temps, des assemblages de pierres, puis des assemblages de petits composants de métal, comment progressivement la forme du bâtiment émerge. Là aussi, comme pour la Fondation Vuitton, les maquettes ont été innombrables. Voici l'une de celles sur lesquelles apparaît, vous gardez à l'esprit le bâtiment de Sydney, apparaît ce travail d'assemblage, d'empilement, ou plutôt dans ce cas, ces composants sont en métal et ne sont pas des briques, ils sont donc plutôt attachés à l'ossature qui ne sont empilées. Et vous voyez en élévation et en coupe ce que donne le profil de ce bâtiment. Donc ça, c'est la partie principale, la partie verticale, autour de laquelle, que vous voyez ici dans une maquette définitive, et vous comprenez que le jeu d'ombre et de lumière peut être tout à fait intéressant, un peu à l'image de celui que Gary avait mis en scène avec la Beekman Tower de New York. Donc ce bâtiment autonome au milieu de ce tambour vitré où se trouvent les parties les plus publiques du programme. Voici deux images du chantier l'année dernière qui vous montrent, il y a strictement un an, qui vous montrent comment le bâtiment est raidi par les circulations verticales en béton et comment cette ossature d'acier, cette ossature primaire, se prépare à recevoir les éléments secondaires qui, eux, finiront par porter les éléments de recouvrement. Alors, un projet, à mon sens, important de Gary, en tout cas important par sa surface, par son caractère symbolique aujourd'hui, à l'ère où les géants de l'informatique sont parmi à la fois les entrepreneurs les plus imaginatifs et les plus riches du monde, Gary s'est trouvé devant la commande de Facebook, des bureaux de Facebook à Menlo Park, en bordure de la Silicon Valley. Le problème initial était simple, il s'agissait d'abriter environ 3000 ingénieurs sur 40 000 mètres carrés. La réponse de Gary, vous la voyez ici, vous commencez à la voir ici, ça a été d'imaginer le développement non pas d'un ensemble compact, mais plutôt d'un campus fait de bâtiments isolés, et de les penser comme étant des bâtiments bas constituant paysage face à la baie. Donc vous voyez le premier bâtiment ici, avec les liaisons avec le système routier tout autour. Vous comprenez immédiatement, en voyant comment sont disposées ces voies, que le sommet du bâtiment, dans ce cas, était initialement pensé pour être un parking, au moins en tout cas un parking, et ensuite au-dessus duquel un jardin aurait été posé. En fait, ce projet a changé dans le temps, et notamment au travers d'une très grande interaction entre Mark Zuckerberg, le fondateur et le patron de Facebook, et Gary. Initialement, Facebook voulait faire comme les collègues. Norman Foster est en train de terminer une sorte de gigantesque donut, une sorte de gigantesque anneau pour Apple. Projet, à mon avis, absurde puisque la nature même de ces entreprises est de croître et de se transformer sans cesse. Abriter Apple dans une forme fermée me semble totalement être une contradiction dans les termes. Zuckerberg s'est rendu compte en définitive que ce n'est pas ce qu'il voulait, qu'il ne voulait pas avoir un architecte simplement une signature, mais qu'il voulait avoir un bâtiment qui soit, je cite en anglais, « unassuming, matter of fact and cost effective ». Donc, Zuckerberg était tenté par le travail de Gehry, mais un peu effrayé. Et finalement, le travail commun a abouti à un bâtiment extrêmement intéressant dans son absence d'ambition en termes d'image et dans son intérêt, dans son centrage, je dirais, sur l'usage et sur le confort quotidien. Donc voici là une des grandes maquettes vues de l'extérieur. Quelle est l'idée ? D'échapper au système du campus industriel où l'on trouve les bureaux, un parking à côté, des bâtiments sociaux pour les salariés. Ici, il s'agit de la superposition d'un parking au rez-de-chaussée, du bâtiment soulevé sur des pilotis à l'intérieur duquel, sur un niveau unique, se trouvent les bureaux, et d'une toiture qui est une toiture jardin, notamment dédié à toutes les activités physiques auxquelles les employés de Facebook et de ces entreprises sont appelés. Donc un jardin doublé d'un ensemble d'équipements sportifs, un bâtiment à trois niveaux. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'intérieur des bureaux que vous voyez ici. Donc c'est un travail. Vous voyez, c'est la même maquette ou une maquette tout à fait à la même échelle, mais sans la toiture. Vous voyez donc le déploiement informel ou apparemment informel des bureaux qui sont censés se grouper autour des projets pour créer des petits noyaux d'ingénieurs travaillant en commun aux problèmes. Vous voyez ces idées de groupement. D'où vient cette idée ? Il est assez intéressant de voir qu'avec ce projet, une sorte de culture de l'architecture d'entreprise qui s'était développée depuis les années 20, peut-être même depuis le début du XXe siècle, est rejetée. Cette culture, je la résumerai avec ces deux images qui mettent en relation, de façon sans doute un peu forcée, les usines Renault pendant la guerre, à un moment où Renault fabrique des munitions, des pièces de chars d'assaut, etc. Donc, vous voyez ces ouvriers alignés derrière leurs établis, et cette image de la plus grande agence d'architecture américaine, une très belle photo d'Ezra Stoller dans les années 50, qui nous montre comment cette logique industrielle est la logique qui présidait à l'organisation des agences d'architecture. Donc, vous voyez ici, c'est l'agence d'architecture, et le premier à avoir vraiment développé ça à grande échelle, c'était Albert Kahn, l'architecte de Ford et de General Motors. Ici, les agences d'architecture singe les usines. Dans le cas de Facebook, et c'est ici que le rapport entre Zuckerberg et Gehry devient intéressant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est là l'atelier de l'entreprise, ou plutôt c'est l'espace de l'entreprise, avec donc sa configuration sans cesse changeante, qui singe l'organisation de l'agence de Gehry. En visitant l'agence de Gehry, Zuckerberg a dit « mais c'est ça que je veux ». Voici un panoramique très récent de l'agence de Gehry à Venise, dans lequel vous voyez comment, bon, d'une part, la prolifération hallucinante des maquettes, mais vous voyez aussi que tout ceci fonctionne par îlots ou par petits patios dans lesquels se trouvent tous ceux qui travaillent sur un projet donné, ici, là encore ou ailleurs. Donc c'est cette organisation. Et Gehry lui-même, qui avait longtemps été au rez-de-chaussée, se trouvant désormais dans une position superposée, presque panoptique, au-dessus de ses équipes. Et vous voyez ici comment Zuckerberg reproduit le système avec son bureau qui domine le déploiement des bureaux de ses collaborateurs. Une particularité originale de cet espace de Facebook, c'est que Zuckerberg aime bien, pense que les réunions les plus courtes sont les moins longues, et qu'il organise des réunions avec ses collaborateurs, un peu comme le faisait Hubert Beuve-Méry au Monde, où la célèbre conférence de rédaction de 11 heures se tenait debout. Alors ici, les réunions se tiennent en marchant autour à l'intérieur des locaux. Il y a donc une sorte de piste tout autour à l'intérieur du bâtiment qui fait tout le tour, une piste de plusieurs centaines de, longueur de mètres de longueur qui sert aux réunions, qui est la piste des réunions de Zuckerberg. Ce premier projet que vous voyez ici était suivi par d'autres, par l'étude de deux autres bâtiments qui sont en chantier. Le principe initial qui consistait à placer les automobiles sous le bâtiment, qui était rationnel du point de vue du climat, a été abandonné par peur des attentats. Et donc aujourd'hui, c'est une configuration plus banale avec un parking à étage qui est choisi. Et puis d'autres solutions architecturales dans lesquelles on retrouve à l'intérieur ces grands espaces fluides, mais aussi des lieux plus qualifiés qui servent pour certains types de réunions plus calmes ou certains ateliers internes à l'entreprise et que l'on trouve en périphérie de ce bâtiment. Alors, je voudrais terminer en évoquant quelques projets extrêmement récents, voire inachevés de l'agence de Guéry aujourd'hui. D'abord, sa maison ancienne se trouvait à 22 rues de l'océan à Santa Monica. Sa maison nouvelle se situe sur une rue extraordinaire qui est en balcon sur le canyon de Santa Monica, face à la maison de Charles et Ray Eames, rue importante dans l'histoire de la littérature, puisqu'y habitait Christophe Isherwood pendant très longtemps. Cette maison est une maison très différente de la première. Vous voyez ici la maquette de cette maison, donc en balcon sur le canyon, qui est une maison ouverte avec une ossature de bois, des toitures transparentes, largement mise au point par Sam Guéry, le fils de Guéry. Une maison qui, à mon sens, n'a pas cette poussée iconoclaste de la première, et qui s'inscrit donc plutôt dans une problématique un peu assagie quant à l'architecture domestique, ce qui n'est pas le cas pour tous ces projets d'ailleurs. Un autre projet personnel que j'évoquerai est le bateau en bois que Guéry a conçu et fait construire à Newport, Rhode Island. Vous voyez ce bateau qui a une forme assez élégante. C'est un bateau qui a aussi comme caractéristique d'échapper au cliché des ouvertures traditionnelles, des hublots. Guéry a dessiné une espèce de résille de bois et de verre qui vient éclairer le carré ici ou la chambre de l'amiral à la pointe du bateau. Vous voyez ce que ça donne à l'intérieur et ce que donnent ces fenêtres à l'extérieur. Donc une tentative pour finalement construire une médiation entre les lois de l'hydrodynamique qui sont parfaitement respectées dans ce bateau qui est censé aller vite et puis l'écriture formelle de Guéry. Un autre projet domestique qui nous montre finalement Guéry retourner à certaines de ses hypothèses initiales quant au projet d'habitation, c'est un projet pour une résidence extrêmement luxueuse dans la Silicon Valley, dont les éléments de programme sont fragmentés. C'est un projet double. Il s'agit de la résidence d'une dame et de sa fille qui chacune ont leur pavillon, ont leur chambre et leurs espaces, les espaces qui s'y rattachent et qui se rencontrent dans les parties de réception principales, traitées avec une différenciation des façades qui fait un peu figure d'intégrale, un peu figure de récapitulation de tout ce que nous avons vu dans le travail de Guéry depuis une quinzaine d'années. Voilà une autre image de cette très grande maquette qui fait 2,50 m de longueur, du côté de l'entrée. Donc l'entrée ici, cette partie centrale avec son ossature de bois enveloppée de verre, un peu comme dans la maison d'Adelaide Drive, et les différents volumes servant aux chambres qui font l'objet d'une mise au point très soigneuse aussi à partir d'un travail numérique dont vous voyez quelques exemples ici. C'est un travail qui est proche de celui développé pour la fondation Luma. Voilà. Un autre projet contemporain, c'est un projet qui inaugure une nouvelle stratégie esthétique. C'est un projet de résidence de vacances à San Luca dans la Basse Californie, donc du côté mexicain de la Californie. Vous voyez de quoi il s'agit d'un ensemble qui est accroché à la pente, porté par des, par des pilotis, les blocs résidentiels étaient ensuite couverts par cette espèce d'envol de toiture qui ressemble à un départ de mouette. Voilà la maquette de travail dans son état actuel, et vous retrouvez dans la méthode de travail les mêmes caractéristiques. Donc les blocs d'habitation sont mis en forme selon le volume qu'ils doivent atteindre et selon les connexions qui doivent être créées, puis ce travail de couverture est réalisé avec des feuilles vouées sans doute à être des feuilles de métal. Un projet en cours depuis extrêmement longtemps, 2009, c'est un projet politiquement très complexe qui semble avoir atteint un certain stade de maturité. Il s'agit du mémorial destiné à Eisenhower à Washington. De quoi s'agit-il ? Ce mémorial n'est pas un bâtiment, c'est un aménagement à l'air libre qui est adossé au Department of Education dans le centre de Washington. Vous voyez de quoi il s'agit ? Quelques poteaux, un parc, un grand écran sur lequel une image qui rend hommage à la saga d'Eisenhower est constituée et quelques groupes de sculptures. Voilà le plan de Washington, donc Capitol Hill, la Maison Blanche se trouve là, au-dessus, et vous voyez ici, donc ça c'est le musée de l'air et de l'espace, donc vous voyez le Department of Education et le bâtiment, et le mémorial qui est ici, donc qui occupe quand même un terrain tout à fait singulier. Voici le premier projet, l'idée de faire un non-bâtiment, l'idée d'utiliser, de revenir au grillage, à la toile métallique et à ses superpositions qui font apparaître des motifs. Souvenez-vous de l'inscription du supergraphisme Santa Monica sur la façade sud du parking du centre commercial de Santa Monica. Ici, la même idée, l'idée de créer un paysage. Initialement, cela devait être un paysage de forêt et l'implantation de quelques groupes de sculptures. Le débat s'est focalisé de façon très forte sur la représentation d'Eisenhower. Et Gary s'est engagé pour qu'Eisenhower ne soit pas représenté dans la posture triomphale du généralissime commandant les armées européennes des Alliés en 1944-1945, mais plutôt dans la posture du jeune garçon venu du Kansas, rêvant à l'avenir, donc une posture aussi très correspondant tout à fait à l'idéologie du rêve américain. Gary a dit à ce propos sa force, sur le conseil d'un certain nombre de ses consultants, notamment Robert Wilson, le metteur en scène de théâtre, qui était favorable à l'idée de fonder ce mémorial nécessairement grandiloquent pour être significatif dans les espaces démesurés de Washington, mais de le fonder sur cet aspect intimiste du jeune Ike, du jeune Eisenhower. Gary a donc dit « sa modestie était sa force, il savait ce qu'il voulait et il savait s'y agripper bec et ongles ». Donc l'enjeu ici était aussi de faire un mémorial relativement transparent pour ne pas complètement obturer la façade du département Department of Education. Donc le projet semble être approuvé aujourd'hui après de multiples conflits avec la famille, certains membres étant favorables et d'autres défavorables. Et la dernière solution consistant à fabriquer sur cet écran transparent de métal le paysage des plages de Normandie où Eisenhower orchestra le débarquement de janvier 1944. Vous voyez, imaginez un grand paysage de Normandie ici. Et voilà la matière à droite qui doit ce travail sur le numérique, sur le tressage du métal qui doit permettre de le réaliser. Donc un projet intéressant, très compliqué à réaliser et en cours aujourd'hui. Un projet, à mon avis, dans un état de coma presque dépassé. C'est une nouvelle entreprise pour le Guggenheim d'Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis, en particulier Abu Dhabi, ont décidé de développer des programmes culturels extraordinaires. Abu Dhabi se veut la capitale culturelle des Émirats et donc construit sur l'île de Saadiyat, ici la ville d'Abu Dhabi, l'île de Saadiyat, une série de grands équipements culturels. Un Louvre, l'article indéfini vaut maintenant, un musée naval fait par Saadid, je crois, ou avant qu'elle fasse l'opéra, un musée d'Ando, un musée de Foster et un Guggenheim que vous voyez ici. Donc, nous voyons là le Louvre, dont parlera Alawardé, qui en a été le chef de projet principal lundi 19 dans ses murs. Et vous voyez ce projet. L'idée, le bâtiment que je ne commenterai pas dans le détail, le projet, est un projet qui émane, un peu comme Nouvelle a voulu le faire, d'une observation des constructions existantes du Golfe, et notamment de toutes ces tours des vents que l'on trouve à la fois sur la côte des Émirats et sur celle de l'Iran. L'idée de forme naturelle de ventilation des bâtiments. Et c'est ce que Gary a essayé de faire avec ces grands volumes coniques, donc qui sont ces grandes ventilations qui séparent, qui alternent, vous le voyez, avec les galeries de ce bâtiment, qui est un bâtiment absolument gigantesque. Donc voilà quelques éléments dans la mise au point de ces structures. Vous voyez que Gary, de façon tout à fait intéressante dans ses derniers projets, s'intéresse plus à la lettre des ossatures, à un rapport moins pragmatique et instrumental aux ossatures que celui qu'il avait avec Disney, Bilbao ou dans ses maisons. Il les dessine, ces ossatures deviennent des éléments de projet importants. Et je voudrais terminer avec un autre projet en cours, qui est un projet d'urbanisme pour la ville et le comté de Los Angeles, qui est une étude d'ensemble sur les 22 km de longueur, ou les 22 miles, je ne sais plus, de la Los Angeles River. Vous connaissez, d'après tous les films tournés à Los Angeles, cette rivière qui a été canalisée par les ingénieurs militaires et qui est une sorte de canal de béton qui traverse la ville, qui zèbre la ville et qui déborde systématiquement 7 ou 8 jours par an pour être complètement sèche le reste du temps. Alors, le projet de Gary est un projet qui consiste d'abord à essayer de dépasser la coupure qu'entretient ce canal entre les quartiers de la ville et notamment de permettre de rendre ces lieux, de créer sur ces lieux qui souvent séparent des quartiers pauvres, d'y créer des équipements, des infrastructures, de créer des bassins inondables, des bassins de retenue qui sont à sec la plupart du temps et qui, quand il y a des crues, permettent de recevoir l'eau et d'éviter qu'il y ait des inondations. Donc vous voyez comment le travail a été fait en parallèle à la rivière pour essayer de trouver des zones qui, en général, sont des délaissés d'autoroutes ou des terrains plutôt sous-occupés pour y trouver matière à équipement sportif ou à paysage ou matière à projet plus ambitieux. Ici, voilà une image plus proche du centre où c'est des photos faites à l'agence et qui sont de qualité médiocre, vous voyez, comprenez le système. Et une dernière image nous montre ici un exemple de ces bassins de retenue et donc de la création autour de la rivière d'une série de quartiers permettant d'éliminer la coupure et de créer des équipements ou des habitations, bref, de réurbaniser ce territoire. Je montre les deux images qui sont accrochées avec des punaises sur le mur à côté de celle-ci, qui nous montrent deux des sources pour la création de ces projets et qui nous rappellent combien Gary et son équipe sont observateurs, donc Chenonceau et le système de l'eau autour du château, et ici, ces réservoirs à gradins indiens qui montent au gré du niveau de l'eau, sans jamais perdre leur forme. Alors, je voudrais montrer, pour terminer, une petite image récapitulative qui nous présente autour de l'atelier de Ron Davis, au milieu, qui nous montre la maison de Gary, Bilbao, le Walt Disney Concert Hall et le Centre Stata, pour souligner qu'au fond, l'œuvre de Gary reste une œuvre, on le voit dans ses derniers projets, une œuvre inquiète, une œuvre qui reste expérimentale, qui met en cause autant les usages et les expériences spatiales que les images. C'est une œuvre qui est traversée par une logique interne qui est celle du recyclage des formes, hein, des formes qui circulent d'un projet à l'autre, mais aussi de la réinvention, donc une sorte d'intertextualité dans laquelle l'expérience de projets antérieurs est toujours réactivée par moyen de citations, de paraphrases, d'inclusions, de dilatations, de compressions. Nous sommes là très loin de la logique habituelle du travail des architectes, qui serait plutôt, pour prendre une comparaison musicale, celui du thème et de la variation, des variations sur des thèmes déjà connus. Ici, les thèmes sont inconnus dans la plupart des cas, et le reste. C'est une réinvention qui est à la fois syntactique, donc dans l'assemblage des bâtiments, on le voit au travers des maquettes, et notamment des maquettes en bois. Donc réinvention syntactique, réinvention lexicale au travers de nouveaux types de matériaux, de nouveaux types de façades, de nouveaux revêtements et de nouvelles solutions. Et puis aussi, il faut le dire, une mise en cause du rapport entre syntaxe et lexique. Nous ne sommes pas dans l'enveloppe du bâtiment, n'est pas qu'une enveloppe. L'enveloppe peut, dans certains cas, prendre une forme structurale. La structure elle-même peut s'extraire du bâtiment, s'en évader et générer des formes par elle-même. Donc une œuvre au total qui a, je crois qu'il est permis de le dire, bouleversé la perception générale, couramment admise de l'architecture, qui a transformé aussi en interne le procès de travail, on l'a vu. Une œuvre extrêmement personnelle, difficile à détacher des expériences, des vicissitudes, de l'affectivité de son créateur, que je vous ai pour l'essentiel épargné, ça n'était pas là ma perspective ici. Une œuvre certainement extrêmement unique et sans doute une œuvre non transmissible, ou alors seulement par une sorte d'imitation qui en saperait les fondements mêmes. Merci.